Salut, c'est Tristan.
Salut, c'est Sarah.
Salut, c'est Alexis.
On représente le collectif Frugarilla d'Octotechnologie.
Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030.
Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés.
Essentiels pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques.
Et 2030 pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
Bonne écoute. Salut, c'est Tristan.
Salut, c'est Alexis.
Alors voilà, on commence un nouvel épisode, mais surtout un nouveau format, et on ne sait pas du tout où il va. Hein. Faut autant être extrêmement clair sur le sujet. J'avais envie de vous parler d'un truc, la loi de Moore, mais comme j'avais pas envie de parler tout seul, j'ai demandé à mon camarade et complice Alexis de me poser des questions et puis de participer aussi, parce que je pense qu'il est un petit peu comme moi. Il ne sait pas juste s'arrêter, il a plein de trucs à dire sur des sujets sur lesquels je suis un petit peu faible. Donc bah, voilà, Alexis.
Ok. Donc là. Là, je fais le canard, quoi. Aujourd'hui, je fais le canard. Parfait.
Tu es un canard qui pose les questions, quand même.
Ok. Bon, je vais essayer d'être un canard à la hauteur. Ok. Bon, alors, effectivement, Tristan, tu nous parles de cette loi de Moore, et je t'entends souvent en parler. Mais alors, c'est quoi cette loi de Moore?
Alors, la loi de Moore, elle a été édictée par un certain Gordon Moore, qui n'est pas complètement un inconnu, puisque c'est le fondateur de Intel, les microprocesseurs. Là, okay. Ding, du, du, ding, tu vois, là, c'est... et je crois de mémoire que ce Gordon Moore, quand il est mort il y a juste un an, au mois de mars 2023, je crois qu'il était 96e fortune mondiale, tu vois. Donc, Et ce monsieur, en 1965, il a écrit un papier scientifique où il a dit « Ah, mais la puissance des microprocesseurs double tous les 24 mois,
okay.
à peu près. Okay. » Alors, il n'a pas dit la puissance des microprocesseurs, il a dit le nombre de transistors dans un microprocesseur ou un semi-conducteur, ça peut être aussi des mémoires, ça double tous les 24 mois. Et en fait, ben, plus tu mets des transistors, plus c'est puissant. Et donc, on a retenu que
tu
ça
fait la traduction sur la puissance, quoi. Ok. Ouais.
Voilà. Et puis, bah, ça s'est vérifié à peu de choses près. La loi de Moore fait que tous les deux ans, tu as une nouvelle génération d'ordinateurs qui est deux fois plus puissante que la précédente.
Ok. Ok. Donc ça, c'est cette loi de Moore dont tu n'arrêtes pas de parler, en particulier depuis la mort de Gordon. Paix à ton âme. Mais il y a une autre loi aussi dont tu n'arrêtes pas de parler là récemment et de plus en plus, peut-être liée à une autre mort d'ailleurs, c'est ton côté peut-être je sais pas. En tout cas,
t'étais à deux doigts de devenir nécrophile. Ne nous dis pas le contraire.
En tout cas, il y a une autre loi dont je t'entends parler depuis quelques temps, c'est la loi de, alors je sais pas comment ça se prononce, la loi de Wirth.
Ouais, moi je prononce ça Wirth, ouais. Ça vient d'un informaticien suisse, Niklaus Wirth. Enfin, moi, j'essaye de le prononcer, mais je ne sais pas parler suisse-allemand, hein, qui était un type assez extraordinaire. Alors, beaucoup moins riche, hein, puisque c'était un universitaire. Il n'a pas fait fortune dans les microprocesseurs, lui. Mais qui était un type assez extraordinaire parce que Niklaus Wirth, qui est mort, alors lui, tout début janvier 2024, Niklaus Wirth, il a inventé le langage Pascal. Ça rappellera des souvenirs peut-être aux plus vieux, et d'autres langages, dont Modula 2. Et en plus de ça, il était titulaire, enfin, il avait reçu le prix Turing, qui est un peu le prix Nobel de l'informatique. Donc, c'était pas un rigolo, c'était quelqu'un d'assez intéressant. Et lui, il a édicté la loi de Wirth, enfin, ce qu'on a retenu comme ça, et il avait la décence de dire que c'était pas lui qui l'avait inventé, mais on a retenu ça sous son nom, qui dit... Il part de la loi de Moore. Oui, le matériel accélère d'un facteur 2 tous les deux ans, mais il ajoute, le logiciel ralentit plus vite que le matériel n'accélère.
Ok. Donc, d'accord. Ouais, j'avais pas conscience que c'était que il avait connaissance de la loi de Moore quand il édicte la loi de Wirth. Ok.
Ah bah ouais, il a dû le dire genre 20 ans plus tard, quoi.
Ok. En fait.
Alors il exagère un petit peu parce que je pense pas que le logiciel ralentisse encore plus vite que le matériel n'accélère. Je lui devais être de mauvais poil ce jour-là, mais je pense que globalement sa loi à lui, elle est aussi vérifiée.
Ok.
Alors j'ai cherché des exemples là-dessus. Et en fait, putain, il y en a plein. Par exemple, tu vois que la taille moyenne d'une page web en 20 ans, elle a été multipliée par 150.
Ah ouais.
Alors, est-ce que les pages web 25 ans plus tard sont 150 fois mieux? Ah non, elles sont bien 150 fois plus grosses, hein. Tu vois, c'est des vidéos qui en fond d'écran qui bougent, machin, 3D, etc. Ouais. Mais est-ce que c'est mieux? Ah, c'est peut-être 2-5 fois mieux, tu vois, mais pas 150. Ça, c'est sûr que c'est pas 150. Si tu regardes dans des choses un peu plus bureautiques, tu vas voir que si tu regardes les spécifications de la configuration minimale de Windows 98 et Office 97, alors ça nous rajeunit pas, versus Windows 10 et puis je crois que ça doit être Office 2019 ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Tu vois qu'il faut des processeurs 60 fois plus puissants et 171 fois plus de mémoire.
Ah oui, 150, 171,
ouais, c'est... Ouais. Ouais, pour, alors, 171 fois plus de mémoire pour faire du Word,
ah.
Alors c'est mieux. C'est-à-dire que maintenant, tu as un correcteur orthographique,
oui.
C'est quand même un progrès.
Oui, ouais.
On peut pas dire le contraire. Ouais. Tu as un correcteur grammatical, c'est bien. Tu peux mettre des émojis. Eh, non, mais faut pas cracher sur le...
Tu peux même insérer des fichiers Excel ou des extraits d'eux, tout ça, tu vois. Ouais, ouais.
Eh peux... ben, écoute, je crois qu'à l'époque, tu pouvais déjà le faire à la fin des années 90, ouais. Mais c'est ton document Word aujourd'hui, il est pas 171 fois mieux. Okay. Et je te parle pas d'une version avec un copilote qui est avec du chat GPT qui écrit le texte à ta place.
Oui,
il
oui.
faut des configurations hallucinantes.
Et en plus des serveurs qui vont bien derrière, la bande passante qui va bien derrière, etc.
Oui, avec une infra hallucinante. Et le dernier exemple que j'aime bien, c'est que l'Apple II de la fin des années 70, il y a des gens qui sont amusés à filmer avec une caméra haute vitesse le temps qu'il faut entre le moment où tu appuies sur une touche du clavier et le moment où ça s'affiche sur l'écran.
Mais alors rassure-moi, tes caméras à haute vitesse, elles tournent avec un bon processeur qui est suffisamment rapide pour bien capter les...
Voilà,
d'accord,
exactement.
Oui, quand même. Okay.
Et ces caméras à haute vitesse, eh ben, elles démontrent qu'avec un Lenovo X1 Carbon de 2020,
ouais.
Donc un bel ordinateur portable d'il y a quelques années, eh bien, c'est 5 fois plus lent que l'Apple 2 qui
ah
est...
Ah ouais.
Ouais,
ouais, donc on le voit vraiment... Ok.
Ouais, donc alors c'est mieux, c'est-à-dire que sur le Lenovo, t'as des polices de caractère en couleur, plusieurs types de polices de caractère, du gras, alors que sur l'Apple 2, tu savais pas faire ça, tu crois que t'avais de la surbrillance, c'était à peu près tout quoi, tu vois, c'était... Donc, mais ça n'empêche que c'est quand même un peu dommage que un laptop hyper cher soit 5 fois plus lent qu'un Apple 2 qui a...
Ah bah oui, là pour le coup, on va dans le mauvais sens quoi, concrètement,
ouais, c'est qui a 40 ans, quoi.
Ok.
Ouais, ouais.
Ok, donc merci pour ces exemples, Tristan. Donc, on y voit un peu plus clair, ça avance, mais parfois ça va même dans la mauvaise direction. Parfois on est un petit peu mieux, ce qu'on disait quoi, sur l'Excel, le Word, peut-être on est un petit peu mieux, peut-être 2-3 fois mieux, mais pas 171 fois mieux. Et même dans certains exemples, ça va dans l'autre sens. À la limite, pourquoi c'est un problème ? Enfin, en quoi c'est un problème selon toi, Tristan ?
Eh ben, je sais pas si tu as entendu parler du changement climatique.
C'est quoi?
J'avais entendu.
Non, je sais pas. Non, mais vas-y, t'es peut-être sur un truc, raconte-moi.
Non, mais, je crois que tout le monde en a entendu parler, sauf si vraiment on habite dans une grotte. Mais à ce moment-là, on n'a pas la fibre. Et c'est un problème. Mais pas que ça, en fait. Les limites planétaires, en général.
Okay.
C'est-à-dire qu'on consomme énormément dans notre vie de tous les jours, et c'est pas juste du numérique, dans tout toute la vie, on consomme beaucoup de choses, on jette beaucoup de matériaux, on fait beaucoup de kilomètres en voiture, en avion, et tout ça, ça impacte la toute fine croûte de la planète où l'humain peut vivre, hein. C'est-à-dire quelque part, en gros, entre moins 100 mètres, si t'es vraiment dans un creux, dans la Death Valley, c'est pas très cool, la Death Valley d'ailleurs, ou jusqu'à 2-3 000 mètres, tu vois, c'est une toute petite croûte autour de la Terre.
La zone critique de Bruno Latour dont tu parles.
Voilà, et ben elle est pas bien épaisse par rapport à la taille de la planète et ben on est en train de polluer l'air, de polluer l'eau, de changer la température, de consommer des ressources métalliques, etc. On jette du plastique et tout. Et tout ça, en fait, c'est un problème parce que la loi de Wirth, j'y reviens, elle a fait que au bout de 2 ans, ton ordinateur, il faisait pas le figure à côté de la nouvelle génération. Et même si tu achetais pas cette nouvelle génération, que t'attendais 4 ans pour garder ton ordinateur, il était vraiment beaucoup moins bien, puisqu'il était 4 fois moins bien que les nouveaux qui sortaient. Et donc, même s'il marchait encore, parce que le silicium ça s'use pas, t'as tendance à balancer ton ordinateur. Et la vérité, c'est qu'en fait, on s'est super mal recyclé tout ce qui est déchets électroniques et informatiques.
Mais en vrai, Tristan, on le jette pas son ordinateur. Enfin, en tout cas, je sais pas, auditeur, auditrice, si vous jetez votre ordinateur, mais on le donne, on le refourgue à notre petit cousin qui en a moins besoin. Enfin, Comment tu vois?
Oui, mais à un moment, le petit cousin, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il le met aux encombrants, quoi. Enfin,
ok. Tu veux dire qu'il y a une chaîne, quoi. Ça, on le donne, puis on donne, et au bout d'un moment, ok.
Exactement. Okay. Et ça, c'est un problème parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Par exemple, ça finit dans une décharge en Afrique parce qu'en fait, on ne sait pas quoi en faire et ça pollue terriblement. Ils brûlent tout ce qu'ils peuvent pour essayer de récupérer les métaux qui sont enfermés dans du plastique.
Ouais, mais du coup, c'est pas mieux et pour leur santé et pour la qualité de l'air.
C'est catastrophique. Alors ça, on le voit pas trop. Mm-hmm. Mais alors, il y a des photos de décharge au Ghana, au bord de la mer. Je vais écorcher le nom, je vais pas le dire. Si genre Agagopchi ou quelque chose comme ça.
Ah, donc, j'essaye pas. Ouais.
Non, ouais. T'as raison, moi, il y aura que moi qui aura raté. C'est horrible, mais surtout que c'est de l'obsolescence programmée, puisque, en fait, au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, ton ordinateur, tu le donnes à quelqu'un qui, puis à la fin, de toute façon, il peut plus s'en servir. Et tout ça,
la faute à cette combinaison de la loi de Moore et la loi de Wirth, cas, avec une façon de programmer, une façon de coder, une façon de numériser qui a, presque internaliser ces idées des lois de Moore et de lois de Wirth, puisque elles sont pas inéluctables, ces lois. Enfin, je veux dire, elles sont pas...
Non, pas du tout. Tu as raison de poser cette question. Elles sont pas inéluctables. Mais en fait, il y a un mécanisme finalement assez simple qui fait qu'on travaille comme ça. Alors déjà, il faut dire que la loi de Moore, c'est une aubaine pour les fabricants de semi-conducteurs.
Oui,
Intel est devenu si riche, et donc Gordon aussi, ou AMD, son concurrent, etc., ou Nvidia, c'est parce que fabriquer des puces en silicium, ça coûte cher, mais ça rend très riche. Et on fabrique, et donc on arrive à fourguer les nouvelles générations, parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes que les précédentes. Donc ils ont intérêt économiquement à faire ainsi. Au niveau du logiciel, en fait, c'est simple. Quand un développeur, il écrit son logiciel, il l'écrit d'une certaine façon, et il y a sûrement une meilleure façon de l'écrire, une façon de l'optimiser. Mais, en fait, le type, l'informaticien, c'est une ressource qui est rare, il a dû faire des études, il coûte cher, en fait, concrètement. Donc, quand il a écrit la première version du logiciel, on pourrait lui dire, tu vas vérifier que tu peux pas refaire la même chose, mais en plus vite. C'est ce qu'on appelle optimiser.
Ouais.
Tu pourrais optimiser, mais en fait, ça sert à rien d'optimiser parce que dans 2 ans, même si tu arrives à le rendre plus rapide, dans 2 ans, tu as une machine tellement plus rapide et dans 4 ans, encore plus rapide, qui fait que tout le temps que tu auras mis à optimiser, finalement, peu utile, c'est dilué dans les progrès qui sont faits par le matériel.
Ok, donc là, tu nous dis qu'avec ces lois de Wirth, lois de Moore...
Je t'explique en gros pourquoi la loi de Wirth, elle existe.
Ouais.
C'est que on pourrait optimiser le logiciel, mais on le fait pas.
Ouais.
Et par contre, le temps d'ingénieur, de développeur, on l'utilise pour rajouter des fonctionnalités. Faire des nouveaux trucs avec ce logiciel, parce que ça rend le logiciel plus désirable. Et donc, on va réussir à vendre cette nouvelle version au client. Et c'est pas grave si, du coup, le logiciel, il est plus gros. C'est pas grave, parce que de toute façon, dans 2 ans, il y aura une nouvelle génération qui va éponger la perte de performance. Si il est plus gros, qui prend plus de mémoire, qui a besoin d'un processeur plus gros, on s'en fiche, ça n'importe pas.
Ok, et toi, ce que tu proposes, en fait, c'est de prendre ce temps d'optimisation, quoi, de prendre ce temps et de pas tout de suite aller sauter et ajouter, sauter la nouvelle version et ajouter des nouvelles fonctionnalités, c'est ça que...
Oui, j'aimerais bien que ça arrive, mais la réalité économique fait que ça n'arrive pas beaucoup.
Okay.
Sauf que maintenant, on commence à se rendre compte que ça fait 50 ans, parce que concrètement, le premier microprocesseur commercial de Intel, c'est le Intel 4004 qui est sorti en 1971, donc il y a 53 ans. Et ça fait 53 ans que la loi de Moore existe et que la loi de Wirth existe en retour.
Se vérifie, ouais.
Les deux se vérifient et donc, en fait, on pousse à la décharge du matériel qui fonctionne encore, mais qui n'est plus utile parce que pas assez puissant. Et donc, on fait du gâchis de puissance de calcul depuis 50 ans. Et toute l'industrie du numérique s'est structurée autour de cette puissance de calcul gâchée qui fait les affaires des fabricants de matériel et des éditeurs de logiciels.
Ouais, on retrouve là en fait les exemples que tu nous citais tout à l'heure, quoi, d'avoir fait 171 fois plus pour Excel.
De mémoire pour faire tourner Office, c'est ça.
Okay.
Alors que globalement, Excel, Word, PowerPoint, Ça fait en gros la même chose.
Ouais, peut-être deux fois mieux, peut-être trois fois mieux, mais pas 171 comme tu nous le disais tout à l'heure.
Voilà. Okay. Exactement. Okay.
Donc là, ouais, tu proposes, en tout cas, t'aimerais.
J'aimerais qu'elle s'arrête, la loi de Moore.
Qu'elle s'arrête, okay. Bye bye.
Ouais. Bah écoute, ils sont morts tous les deux, hein, donc voilà, si on pouvait. Bon.
Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle s'arrête? Puisque, en fait, elle va pas s'arrêter toute seule de façon magique, ni parce que Tristan Nitto, aussi légende sois-tu, le souhaite, le veut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on se met en ordre de bataille pour la faire mentir, cette loi?
Eh bien, déjà, on pourrait regarder ce qui se fait en optimisation. C'est-à-dire, si on se relevait nos manches et qu'on se mettait à optimiser le logiciel, c'est assez incroyable et j'ai trois exemples en tête. Ouais. Le premier, c'est une vieille connaissance sur Mastodon et que je connaissais d'avant, c'est Pierre Bessac. Pierre, il est cofondateur de Gandhi.net. Alors ça va faire frémir aussi les vieux. Et il se trouve que Pierre, il développe des logiciels et un jour, il a développé un truc en Python, un script qui calculait la position des trains sur une carte OpenStreetMap. Ce script, il tournait en 6 heures. Et il trouvait que c'était long quand même, que ça ralentissait sa machine 6 heures d'affilée. Donc, il s'est dit que ça serait bien que ça tourne plus vite. Et il a commencé à regarder, il a utilisé un logiciel qui s'appelle un profiler, qui lui indique dans quelle partie de son code, en fait, est appelé souvent et dans lequel
pour pouvoir l'optimiser, quoi,
le temps est passé, quoi. Ouais, ouais. En disant, voilà, c'est là que ton processeur, il se traîne, quoi. Il passe son temps à faire ce truc-là. Il s'est rendu compte qu'en fait, il recherchait souvent les mêmes informations, que le mieux, c'était de les stocker dans une mémoire cache. Et donc, il met en place une mémoire cache pour son truc. Et en fait, au lieu de mettre 6 heures, ça met plus que 6 minutes.
Ah oui.
Et donc, il a fait 60 fois plus rapide.
Ah ouais, ok.
En quelques minutes. Hein. Okay. Son script, il me disait qu'il a mis entre 100 et 150 heures pour l'écrire, au départ, la première version. Ouais. Et qu'il a mis 30 minutes à l'optimiser. Et que maintenant, c'est 60 fois plus vite.
Ah ouais, en 30 minutes de temps de travail.
En 30 minutes de travail, donc il a fait 150 heures plus 30 minutes et il a divisé par 60 le temps d'exécution.
C'est gigantesque, quoi. C'est gigantesque. Ok.
Ouais. Et là, tu dis, ah ben en fait, en gros, il a gaspillé 59 fois trop de ressources, quoi, pendant tout le temps où il a pas optimisé. Puis il a optimisé et bim, il fait 60 fois plus vite. Alors j'ai un autre exemple, ça c'est un de mes collègues, un de nos collègues, puisqu'on est tous les deux chez Octo, qui s'appelle Aurélien, qui travaille dans le machine learning.
Okay.
Et Aurélien, il entraînait un modèle de données, ça prenait une quinzaine d'heures tous les jours. C'était pour une start-up, pour reconnaître des photos, etc.
Okay.
Et 15 heures avec des machines qui sont coûteuses, évidemment. Et il travaille dessus, il optimise, il réduit la taille des variables, etc. Et maintenant, son logiciel, il tourne 5400 fois plus vite.
Ah, en combien de temps, du coup?
C'est quelques minutes maintenant. Je me souviens plus, mais quelques minutes.
Mais rassure-moi, il n'y a pas un truc qu'on nous dit pas entre les lignes, là, les astérix qu'il faut lire. Enfin, derrière, il a pas rajouté 15 000 serveurs. C'est à ISO.
Non, configuration identique, ouais.
Absolument. Okay, okay.
Donc, 5400 fois plus rapide, donc plus économe pour faire.
Il a été grillé.
J'en ai un troisième.
Ah oui, d'accord. Tu vas crescendo, quoi. 60.
Ah bah oui, 5400.
Bon, alors, exactement. Je sais pas, auditeur, auditrice, qu'est-ce que vous pensez, là, le prochain, combien de fois plus performant va être le prochain exemple de Tristan, c'est à toi.
Ah ben celui-là, alors là, c'est Matt Parker et on mettra l'info dans les liens de l'épisode.
Tu m'as partagé la vidéo, je m'en rappelle. Alors là, ça va vous bluffer.
Elle est assez tordante. Alors, elle est in English, mais elle est vraiment très bien. Et Matt Parker, c'est un drôle de personnage parce qu'il est à la fois mathématicien et stand-upper sur YouTube. C'est un drôle de mélange et il a une bonne tête en plus. Lui, il s'est dit qu'il voulait résoudre un problème logique. Le problème, en quelques mots, ça consiste à prendre un dictionnaire anglais, puisqu'il est anglais, Matt, prendre les 26 lettres de l'alphabet et essayer d'écrire une phrase de 5 mots et chacun de ces 5 mots fait 5 lettres.
Okay.
Et il faut que toutes les lettres soient différentes les unes des autres.
D'accord.
Donc, tu choisis un premier mot de 5 lettres, il faut qu'il n'y ait pas de répétition de lettres dans le premier mot. Puis, un deuxième mot de 5 lettres, il ne faut pas qu'il y ait de répétition avec le premier mot, ni au sein du deuxième mot. Puis après, un troisième mot, et donc forcément, il est plus difficile à trouver parce que tu as déjà, bouffé 10 lettres de ton alphabet, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives au cinquième mot. Et là, tu as utilisé 25 lettres et il y en a une qui n'est pas utilisée sur les 26.
Non, mais là, je t'arrête tout de suite. Juste, il explique à un moment pourquoi il a voulu faire ça, Matt Parker.
Ouais, c'est un problème de logique. Là.
Ah d'accord.
Non, okay, ça sert à rien. C'est pour la beauté du geste.
D'accord,
c'est...
ça va, ça va. Non, vas-y, continue. Pardon.
C'est des maths. C'est... On peut pas comprendre. Et là, il fait un script en Python. Il lance le machin et ça tourne pendant 32 jours. Bon, alors, ok, je vous entends déjà dire, ouais, le Python, c'est pas le plus performant des langages, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, ça met 32 jours à tourner. Et il commence à en parler dans un podcast, et là, il y a quelqu'un qui fait, moi, j'aimerais bien relever le défi et résoudre le même problème logique, mais je suis sûr que je suis un peu moins bête que Matt Parker, ou en tout cas plus malin, et donc, je vais écrire le logiciel d'une manière différente, et ça va tourner plus vite. Alors là, l'autre, Matt Parker n'est pas encore au courant du truc, hein, tu vois, mais il laisse dans les commentaires du podcast, ça y est, j'ai une version maintenant, et elle tourne non pas en 32 jours, mais en 15 minutes.
Ouch. Ouh, l'ego,
c'est énorme. Et là, là, ça commence à se déchaîner. Il y en a un troisième qui fait, attendez, hold my beer, comme on dit là-bas, tu sais. Je vais faire encore mieux que 15 minutes, et ainsi de suite. Puis il y en a
on va faire une traduction pour les Tristan fans, c'est hold my brompton, tu vois. Tu vois. Attendez, voilà. Hold my brompton, attendez.
Tiens-moi mon vélo, je m'en occupe, hein, voilà. Bon, et ainsi de suite. Et puis après, ils sont mis à travailler ensemble, en fait, en disant, ah ouais, mais tu pourrais optimiser en faisant encore mieux, en faisant comme ceci, comme cela. Donc, ils ont parlé d'algorithmique, enfin, de, bon, bref. Et à la fin, la meilleure version qu'ils ont fait tous ensemble, au lieu de mettre 32 jours, elle met 6,7 millisecondes.
Oh, oui.
Donc, alors, ça fait un facteur 408 millions.
Ah, voilà. Oui, c'est ça, 408 millions.
Donc, c'est la dernière version, elle est 408 millions de fois plus rapide que la première version de Matt Parker. Alors, c'est objectivement, c'est le cas idéal, quoi, si tu veux.
Ouais, mais du coup, t'es revenu voir Pierre Bessac après, et tu lui as dit, eh oh, tu pourrais bosser un petit peu plus quand même, rebosse un petit peu 30 minutes, puis 30 minutes.
Non, je lui ai pas dit à Pierre, mais j'espère qu'il va écouter cet épisode.
Tu peux continuer.
Mais je sais pas si tout est faisable. Enfin, je pense que vraiment l'exemple de Matt Parker, il est absolument idéal. Mais 408 millions, ça me paraît, c'est un peu l'Everest de l'optimisation, quoi. Mais au moins, ça donne une idée de ce qu'on peut faire.
De ce qu'il y a à fouiller, à chercher, et à dégraisser, ouais, quoi, à optimiser, ouais.
Donc se dire, je vais pas faire 20% plus rapide, mais il y a sûrement des endroits dans les logiciels qu'on utilise où on peut faire x 1000, x 2000. Et ça existe dans le monde réel. Hein. Moi, j'ai lu un article d'un type qui avait accéléré GTA Online, qui l'avait rendu 3 fois plus rapide le chargement. Parce que parfois, ça mettait 10 minutes. Tu vois, tu lançais le jeu, il était connecté à Internet, et ça mettait 10 minutes pour se lancer. Moi, tu mets un jeu vidéo qui met 10 minutes à se lancer, le PC, il brûle. Tu vois, avant, c'est moi qui ai foutu le feu.
Oui, t'es parti avant qu'il commence, quoi.
Mais... Exactement.
Non, mais c'est là où on sent que les informaticiens, ils sont sur des vrais sujets, des vraies optimisations. Lancer GTA en moins de 10 minutes, c'est quand même super important, tu vois. Parce que le café, il se fait pas en 10 minutes, il se fait beaucoup plus rapidement. Donc, c'est important, c'est des vrais sujets, ça.
Exactement. Et d'autant que le mec, il travaillait pas chez l'éditeur qui s'appelle Rockstar. Ah oui. Il a fait de l'extérieur, en n'ayant rien, et en ayant juste le jeu, et en désassemblant le machin, décompilant le code. Enfin bon, c'est un furieux. Ouais. Donc, il avait beaucoup de mérite. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, à délaisser l'optimisation, pour la raison que je t'expliquais tout à l'heure, on a fait énormément de gâchis, et on peut revenir en arrière, on peut optimiser du code de façon, je dirais, spectaculaire, et faire des économies de ressources.
À condition de prendre ce temps de la maintenance, à condition de peut-être de revaloriser, parce que c'est aussi un des constats qu'on faisait à Octo. C'est vrai que ce temps de prendre soin des logiciels, de prendre soin des collectifs qui travaillent sur les logiciels, ben il est souvent peu valorisé, quoi, peu investi, ne serait-ce qu'au prix au TJM, tu vois, au TJM vendu chez les clients, on vendra beaucoup plus cher un TJM pour créer un truc, un nouveau truc innovant, etc., et qui va être sûrement très gourmand en termes de ressources et tout ça. Et puis par contre, le temps derrière pour la maintenance, pour l'optimisation, pour faire en sorte que tout marche, pour peut-être décommissionner les trucs qui sont jamais utilisés, alors là, ce temps-là, ben, il est... peu valorisé, peu investi, et puis et souvent délocalisé, ou en tout cas on met pas d'argent, de temps.
Absolument. Alors en fait, tu te rends compte que l'optimisation, on en fait parfois, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on en fait quand on est obligé.
Ok.
Quand tu avais des petits ordinateurs, pas puissant, et ben tu devais apprendre à en tirer le meilleur parti possible, et donc tu optimisais ton code pour que ça fonctionne.
Et oui, l'époque où on faisait du développement sous contrainte, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Mais ou dans l'aérospatial, par exemple, oui. Tu mets un ordinateur à une date T, et puis tu sais que ce truc-là, soit parce qu'il est déjà en orbite ou parce que ton satellite il est spécifié, enfin tu peux pas le changer le matériel comme ça, tu peux pas changer un autre ordinateur à la place, machin. Et ben tu sais que ça doit rentrer avec telle puissance et il faut que ça marche dans tel délai, et donc tu te débrouilles pour que ça arrive, et là on fait de l'optimisation. Ou les consoles de jeux, tu vois, avant l'époque du downloadable content, sur les consoles de jeux qui n'étaient pas connectées à Internet, une fois que tu avais vendu la console de jeu, tu sais bien que tu doutes bien que le type il avait pas rajouté de la mémoire dedans, ou un disque dur ou quoi. Et puis que quand tu vendais un CD-ROM ou une cartouche, le logiciel il évoluerait jamais, tu vois, et donc il fallait qu'il soit bon dès le début. Et donc là, on optimisait parfaitement pour que ça tourne bien. Et puis, eh ben, quand on peut éviter d'optimiser, ben, on le fait pas, et c'est dommage.
Ok, donc il y a des moments où, alors, on a des exemples d'optimisation radicale. Là maintenant, c'est souvent délaissé, et en même temps, il y a des endroits, notamment tout ce qui serait informatique embarquée, satellite, donc des espaces qui sont sous contrainte par construction, comme les consoles. Une fois vendues, on n'y touche pas, on fait pas vivre en fait la loi de Moore en action. Finalement, les consoles, eh ben, elles attendent pendant 2 ans, et puis si tu veux des nouveaux jeux sur des vieilles consoles, bah, faudra bien les optimiser sous contrainte avec ce que tu avais à l'époque. Donc ça existe à certains endroits. Et toi, quand tu me bassines, faut le dire que tel qu'il est, mais tu me bassines avec cette loi de Moore et cette loi de Wirth depuis 6 mois, peut-être
des
un
mois,
peu plus,
mois,
plusieurs mois. Mais donc, t'es venu avec cette idée-là, un peu naïve, un peu comme ça, que t'as appelé la loi de Hiroom, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est Hiroom, c'est Moore, mais à l'envers.
Ah bah oui, tout simplement, quoi. Si vous l'avez pas.
Hiroom.
Ok, ouais.
Voilà. Et alors, du coup, pour que ça soit plus facile à retenir, j'ai essayé de faire un acronyme, mais j'ai raté. Enfin, ça fait un acronyme, mais il est incompréhensible.
Ah bah si, faut que tu l'essayes quand même. Ouais. C'est quoi? C'est quoi?
Ah ouais, non, mais je vais te le dire, mais en fait, ça va pas t'aider à le mémoriser. C'est, donc Hiroom, c'est effort radicalement organisé d'optimisation en masse.
Et voilà, il y est arrivé.
Voilà.
Oh là là.
Et
là.
Voilà.
Bravo.
Oui, bon, c'est la loi de Moore à l'envers. Je dis ce qu'il faudrait, parce que tu sais, la loi de Moore, avant de te dire ce que ça fait, faut quand même se rappeler d'un truc qui est vachement important. Moore, quand il a dit on double la puissance, enfin on double le nombre de transistors dans les semi-conducteurs tous les 2 ans.
Ouais.
C'était, regardez, on a réussi à le faire en gros 2 fois de suite là. Et après, c'était un genre de prophétie autoréalisatrice.
Ouais.
Il programmait le truc. Il disait, regardez, il faut qu'on se débrouille pour qu'en tant qu'industrie, tous les 2 ans, on fabrique des nouvelles technologies avec des nouvelles usines, et donc on ait assez de capitaux
pour faire
une nouvelle génération tous les 2 ans.
Et puis c'est une sorte de grand programme. En fait, c'est une énorme planification. Je crois que c'était Gauthier Roussy, un précédent podcast de Numérique Essentiel. Il nous disait, c'est la plus grande programmation politique, planification pardon, économique jamais vue depuis tous les temps, parce que ça se fait pas comme par magie, effectivement. Ça nécessite des investissements.
Ah bah, notamment une usine, etc. C'est des milliards de dollars, littéralement, sans exagération. Mais ça rapporte des centaines de milliards de dollars. Mmh, donc, c'est faisable. Hein, tu trouves des gens pour t'avancer l'argent, espérant.
Ouais, et puis c'est devenu une sorte de Far West. Tu parles de milliardaires avec des appétits aiguisés de richesse. Mais tout ça aussi soutenu par des États, soutenu par des planifications écologiques, j'allais dire.
Économiques.
Peut-être pas économiques.
Peut-être pas, non, justement. C'est le problème.
Et aussi par des besoins et des usages militaires derrière aussi.
Voilà. Okay, donc. Et donc cette loi de Hiroom, qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'impire, donc c'est la loi de Moore à l'envers, elle décide en quelque sorte, comme la loi de Moore, de dire on va optimiser le logiciel existant d'un facteur 2, on va doubler la vitesse du logiciel tous les 2 ans.
Mais en fait, ça y est, je viens de réaliser, mais t'aurais dû l'appeler la loi Nito? Pourquoi tu l'as pas appelé la loi Nito?
Non, je suis comme Wirth, moi, je suis beaucoup, je peux pas, ça, je sais pas faire. Non, Moore, il sait faire parce que il a de l'ego. Enfin bon, il a plus rien maintenant, mais c'était la Silicon Valley, moi, tu vois, je peux pas, moi.
Ok, bon, la loi Hiroom, d'accord, on garde. Et donc, cette loi de Hiroom, là, que tu nous proposes, ça offrirait quoi? Ça donnerait quoi comme perspective?
Alors, en fait, il y a un truc qui est quand même vachement intéressant, c'est que l'empreinte écologique du numérique, en particulier en France, c'est que c'est la fabrication du matériel qui porte l'essentiel de l'empreinte. Ce qui est coûteux pour la planète, polluants, émetteurs de gaz à effet de serre, consommateurs d'énergie, etc. C'est la fabrication du matériel. Pourquoi ? Parce que, bah, en fait, tu vas en Afrique, tu vas en Amérique latine, tu vas prendre des appareils qui tournent au diesel, qui vont tourner des mètres cubes et des mètres cubes de roche pour en retirer des grammes, littéralement, hein, des grammes de métal. Malheureusement, je ne plaisante pas. Hein, aujourd'hui, une mine de cuivre, c'est 0,3% de rendement en moyenne. Et donc, tout ça, c'est très émetteur de gaz à effet de serre. Ça détruit les écosystèmes. Ça emmerde les populations qui habitent là. Ça pollue leur eau, leur air. Enfin bon, c'est une catastrophe. Okay. Après, tu emmènes tout ça en bateau en Chine. Tu l'as, ou à Taïwan, tu fabriques le matériel. Tu mets ça dans des avions. Ça arrive en France. Et en gros, 80% de l'empreinte écologique, elle a été faite avant que tu déballes ta machine.
OK. Et donc, la loi d'Hiroum ?
Eh ben, la loi d'Hiroum, ça fait que tu n'as plus besoin de changer ton matériel. Parce que, puisque le silicium ne s'use pas et que ton logiciel est de plus en plus léger, tu peux garder ton matériel indéfiniment.
À iso-fonctionnalité.
Les fonctionnalités, mais même plus, puisque en optimisant, tu libères de la puissance de calcul que tu peux dédier à d'autres fonctionnalités. Donc, tu continues d'innover, tu vois. En fait, en quelque sorte, il y a un effet rebond qui est embrassé, si tu veux, dans cette perspective, c'est oui, il y a de l'effet rebond, mais j'ai déjà dépensé pour avoir ma machine. Et donc, plus j'optimise le logiciel qui est déjà dessus, plus j'ai de la place pour inventer des nouveaux logiciels qu'il faudra optimiser à leur tour aussi. Mais donc, on continue d'inventer des nouveaux usages tout en gardant le matériel. Et donc, on n'a plus que juste à l'alimenter en électricité pour qu'il fonctionne. Et comme on est en France et que on a la chance d'avoir une électricité globalement décarbonée, enfin beaucoup plus qu'ailleurs, grâce au nucléaire, qui a son lot d'inconvénients énormes, ne l'oublions pas, mais du moins pas lié au gaz à effet de serre, ou très peu, et puis les barrages hydroélectriques qui eux aussi sont peu carbonés, et ben en fait, tu peux utiliser du numérique, si les serveurs sont en France, le réseau en France et les ordinateurs en France. Tout ça, c'est alimenté avec de l'électricité globalement décarbonée. Et donc, en fait, tu as peu d'impact quand tu utilises ce matériel.
En fait, ce que tu proposes, au final, c'est déjà la stratégie que j'ai, mais au niveau de mes livres, tu vois, moi, je vis en toute petite maison, je vais pas dire le mot anglais, mais je vis en micro-maison, donc ma bibliothèque est fixée, et donc quand je vais acheter un nouveau livre, bah, faut que j'en enlève un. En tout cas, faut que je fasse de la place dans tout ça, et là, ce que tu nous dis, c'est avec la loi de Moore, finalement, pour se payer des nouvelles fonctionnalités, ok, les gars, pas de problème, on peut le faire, mais avant ça, il faut optimiser.
Faut faire de la place dans la bibliothèque.
Faut faire de la place dans la bibliothèque, faire de la place dans le processeur, pour pouvoir mettre les nouvelles fonctionnalités. Et on n'en met pas des nouvelles si on n'a pas optimisé en avance de phase. Ok.
Exactement. Ouais. Et ça veut dire que, à titre individuel, on fait des économies. Mais si on est un directeur des systèmes d'information, aussi, on fait des économies sur le matériel. Une bonne partie de l'argent, tu sais, pour un DSI qui est dédié à faire tourner l'existant et à renouveler le parc sans cesse de matériel, là, on fait des grosses économies. Quoi,
OK. Et on met en acte, clin d'œil à Benjamin Inassi, on met en acte l'idée de faire tourner les services de demain sur le matériel d'hier.
Voilà, exactement. Okay. Exactement. C'est exactement ça.
Et tu me disais aussi que la loi de Moore, indépendamment de ton souhait, là, de ce que tu lances avec cette idée de la loi de Hiroum, mais la loi de Moore, tu disais qu'on observe déjà qu'elle est en train de vaciller, de ne plus se réaliser.
Oui, absolument, absolument. Ça, c'est incroyable. Là, je suis en train d'écrire un article pour documenter tout ça. Elle continue, la loi de Moore. On rajoute toujours plus de transistors pour faire des processeurs, mais les processeurs, ils ne sont pas plus puissants. Et la puissance, elle plafonne. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé au bout. C'est-à-dire rajouter plus de transistors, plus de complexité, plus d'optimisation du matériel pour effectuer des choses, ça ne fait pas tourner plus vite les logiciels.
On touche l'asymptote doucement. C'est quand même dingue, ce monsieur. Il a créé la loi de Moore et quand il meurt, elle s'arrête avec lui. C'est quand même hallucinant, non?
En fait, elle s'est arrêtée il y a quelques années. Enfin, tu vois, elle est en asymptote. C'est-à-dire qu'elle plafonne, quoi. Elle ralentit de plus en plus. C'est dramatique parce qu'en fait, la loi de Moore, elle ne fonctionne. Donc, on mettait en gros, donc on doublait le nombre de transistors, mais pour que ça soit faisable sans que le prix s'envole, juste pour te donner une idée, entre le Intel 4004 de 71, il y avait 2300 transistors, 2300 en 1971. Aujourd'hui, dans un Intel Core i7, c'est de l'ordre de 50 milliards.
Ah oui.
2300
ah oui.
versus 50 okay. milliards. Donc, en fait, okay. tu en mets vraiment beaucoup, beaucoup plus.
Ouais.
Mais ça n'est possible que parce que le prix du transistor a vachement baissé, le prix ah oui, unitaire ah oui. du transistor, mmh. parce que sinon, ça vaudrait 50 millions un processeur, tu vois, donc non.
Le prix, la taille et tout ça.
Bah oui, exactement. Exactement. Ouais. Et donc, les transistors, il fallait absolument qu'à chaque génération, ils baissent, mais de mémoire, c'est en 2008 que le prix des transistors s'est arrêté de baisser.
D'accord, ok. Ah oui, donc ça date un petit peu
et donc, sur l'ordissement. Ah, okay. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois les cartes Nvidia, elles coûtent des, tu sais, les cartes de GPU qu'on utilise pour faire de l'IA.
Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui, ça vaut des dizaines de milliers de dollars pièce.
D'accord.
Et même, il y a des gens qui spéculent, et j'en ai vu récemment à 100 000 dollars parce qu'elles sont tellement introuvables que les gens jouent la spéculation.
Donc, à faire, ouais, on joue plus dans le même cours, quoi. 100 000 dollars, c'est le prix de ma maison, quoi. Ça va. Ok. Ok. Bah. Et donc tu nous dis que tout ça tu vas le documenter un petit peu plus dans un article, c'est ça?
Oui, ouais, ouais,
prochainement,
ouais,
c'est ça.
Exactement.
Classe, classe. Hâte de le lire. Et ben peut-être en guise de conclusion, puisque là on arrive au bout de cet épisode qui est une intro en fait à ce que tu nous prépares pour la suite. Bah tu veux, t'as envie de nous amener où avec tout ça et aussi à travers le podcast ou en tout cas un sous-podcast des numériques essentiels 2030.
Oui, voilà, en fait, je veux commencer une série de podcasts sur le sujet de okay. l'optimisation, de faire du meilleur de logiciel sur la loi de Moore, la loi d'Hiroom, et comment est-ce qu'on fait, en fait, pour faire du logiciel qui nous oblige pas à changer de matériel, et comment est-ce du coup, on arrive à avoir ce combo assez incroyable qui est continuer à innover.
Ouais.
En faisant de la place, comme tu le disais, dans la bibliothèque, enfin dans ton processeur, en optimisant les logiciels existants, ce qui nous permet de pas renouveler le matériel, donc d'être écolo et de continuer à innover sous contrainte.
Et voilà, donc, c'est ça que je vais explorer. Tu vas avoir envie d'inviter Pierre Bessac, Aurélien, Matt Parker, ou mais, non, peut-être pas Matt Parker.
Il parle anglais, Matt Parker. Ah, s'il ouais, parle non. français, je veux bien l'inviter. Mais
Matt, si tu nous écoutes, je peux parler français. Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça, tu peux commencer avec ta méthode à 6000.
Et peut-être un petit truc, si tu écoutes ce podcast-là et que tu as entendu parler d'une innovation, d'une optimisation gigantesque qui ferait pâlir Aurélien, Pierre et peut-être Matt, n'hésite pas à nous faire un signe. Tristan, il sera content d'échanger avec toi.
Oui, 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 cher auditeur, absolument. Signalez-vous. Je suis pas difficile à trouver. Mon adresse mail, c'est mon prénom @monnomdefamille.com et je m'appelle Tristan Nitto, NITOT. Hein, donc c'est pas très difficile. Même une IA pourrait décrypter cette énigme pour m'écrire. Donc écrivez-moi. Moi, j'ai déjà quelques noms de personnes super intéressantes.
Excellent.
Qui ont travaillé. Qu'on fait des choses mais fabuleuses, qui continuent à programmer des Apple II, etc., à faire des choses modernes. Ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord pour intervenir, mais je suis toujours à la recherche de nouveaux invités pour essayer d'inventer un numérique plus intelligent, plus
radicalement optimisé.
Voilà, radicalement ouais. optimisé en masse.
En masse. Ok, merci beaucoup pour voilà. cet épisode d'introduction et longue vie à ce sous-podcast. Hâte d'écouter la suite. Salut.
Merci Alexis, salut.
Voilà, cet épisode est terminé.
Vous en trouverez plein d'autres sur frugarilla.fr.
Et si vous préférez l'écrit ou les rencontres, foncez aussi sur frugarilla.fr.
À bientôt.